RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur RMC jusqu'à 16h. Comment la sexualité humaine a-t-elle commencé? Nos ancêtres connaissaient-ils la fellation ou le cuni? Est-ce que nos ancêtres étaient fidèles? Donc voilà autant de questions auxquelles va pouvoir répondre mon invité Philippe Brenneau. Alors bien sûr, il est sexologue, vous le connaissez, il vient régulièrement dans La Haye, l'amour et vous. Mais il est aussi anthropologue et il s'intéresse depuis toujours à la vie sexuelle des singes, entre autres, et évidemment de nos ancêtres. Alors vous allez voir, l'évolution sexuelle humaine n'est pas si importante que ça, mais cette introspective est intéressante pour peut-être mieux comprendre comment notre sexualité va évoluer au fil des prochaines décennies. Vous avez envie de participer à ce débat passionnant? En tout cas, moi je le trouve passionnant. Eh bien, n'hésitez pas à intervenir vous aussi. Et pour ça, c'est simple, vous appelez le 3216 et vous donnez votre avis, votre opinion. Notre programme du jour, nous allons retrouver notre minute haute avec un focus sur l'actrice Stoya. En actu sexe, je vous parlerai de cette course Odyssea qui aura lieu samedi pour lutter contre le cancer du sein. En love conseil, est-ce que c'est bien de revoir ses ex? Eh bien, je vous dirai ça dans un instant. Et puis en sexy news, on décodera les pièges qui nous empêchent de retrouver quelqu'un et qui nous laissent célibataires. Et puis, bien sûr, vous pouvez continuer à jouer pour gagner un séjour donc en Tunisie, au Maroc, je ne sais où, grâce au ce jeu RMC Plage Marmara. Alors c'est simple, vous appelez le 3216, vous appuyez sur la touche 6. Et trois d'entre vous seront tirés au sort tout à l'heure et pourront choisir un transat. Il y a déjà des transats qui ont été choisis. Donc la chance de partir en voyage est de plus en plus grande. Donc n'hésitez pas, 3216, touche 6. Vous pouvez également rejoindre notre châtelain. Bonjour Cyril.
Bonjour à tous. Bah écoutez, en tout cas, nous on a évolué en matière d'informatique et on va pas s'en plaindre. Alors vous pouvez venir sur notre chat.
Mais ça c'est sûr que à l'époque des cavernes, je crois pas que l'ordinateur existait.
Non, peut-être du tam-tam, mais bon.
Là, maintenant, c'est... Peut-être, oui.
Maintenant, c'est Internet avec rmc.fr. Vous pouvez venir témoigner et on fera un point tout à l'heure, Brigitte.
Absolument. Et Internet, c'est sûr que pour le sexe, ça continue à évoluer. Pas forcément d'ailleurs toujours très bien. D'ailleurs, demain, on parlera des addictions et notamment des addictions sur Internet. Mais pour l'instant, c'est Jean-Michel qui a eu envie de réagir et je le remercie. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Brigitte. J'ai voulu réagir au sujet d'aujourd'hui parce que la sexualité, il y a deux choses dans la sexualité. La sexualité, elle a évolué. Il y a deux choses qui ont évolué. La sexualité, c'est toujours la même parce qu'on a fait toujours la même chose que nos ancêtres, quasiment. Mais elle a évolué au point de vue pour la contraception pour les femmes, les médicaments pour les hommes quand ils ont des manques d'érection. Et il y a une chose qu'il y a surtout, c'est qu'on en parle beaucoup plus librement qu'à une certaine époque. Aussi, c'est moins tabou qu'à une certaine époque. On n'avait pas le droit de parler de ci, pas le droit de parler de ça. C'est comme les clubs échangistes. Il y a beaucoup de clubs échangistes maintenant. Mais sous l'ancien régime, sous l'ancien roi, il n'y avait pas de clubs échangistes, mais ils faisaient ça dans le château de Versailles ou dans les châteaux. Qui n'avait pas ses maîtresses et ses amants? Il faisait de l'échangiste aussi.
Non, mais ce que vous dites est important. C'est vrai qu'il y a eu une époque où la sexualité était beaucoup plus libre, peut-être même plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Oui.
Mais il y a eu une sorte de retour de bâton, notamment au 18e et 19e siècle. Et on a tendance à penser que ça avait toujours été comme ça, c'est-à-dire une sexualité très bridée. Mais par exemple, au Moyen-Âge, il y avait une sexualité certainement encore plus libre. C'était pas forcément d'ailleurs très très positif, hein, mais
non,
plus
non,
libre
non,
qu'aujourd'hui.
Non, c'était pas tellement positif parce qu'il y avait pas tellement les gens, il y avait moins d'hygiène aussi, donc les gens avaient moins tendance à se laver, donc il pouvait y avoir des pas mal de maladies qui se promenaient. Bon, le sida, il n'était pas encore inventé, comme on dit, mais il y avait d'autres maladies qui pouvaient se propager.
Il y a eu beaucoup de morts de la petite vérole qu'on appelle aujourd'hui la syphilis.
Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui...
Enfin, ça, c'était pas au Moyen-Âge.
Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on en parle librement parce qu'on pratique la fellation, le cunnilingus, on fait la cellule de la sodomie, il y a des jouets intimes. Quoique les jouets intimes ont toujours existé. J'ai regardé un jour, je lisais un magazine où il y avait des jouets intimes qui étaient dans l'Antiquité. Ils faisaient ça avec des os ou avec du marbre ou des pierres polies, etc.
Oui, donc, mais il vibrait, donc, il vibrait pas. Il n'y avait pas, encore le sexe à pile.
Non, il n'y avait pas, pas les piles qu'elle avait avec, mais ça existait aussi. Donc, c'était.
Mais ce qu'il y a, enfin, si vous voulez, il y a quand même une chose importante, et Philippe Renaud nous expliquera à quel point c'est intéressant de comprendre ça. C'est la première fois depuis la nuit des temps que l'on a pu séparer reproduction et sexualité.
Voilà, exactement.
Grâce à la contraception. Et ça, c'est quand même.
Oui.
Particulièrement très important.
Ah oui, c'est très important parce que la femme dans le pain ne faisait pas l'amour, c'est son devoir conjugal. C'était tout.
Oui, il y a quand même, à mon avis, toujours eu des femmes qui avaient du plaisir à faire l'amour. Et...
Oui, mais dans la crainte de tomber enceinte, c'est surtout ça aussi. Hein. C'était pas évident non plus.
Oui, mais vous savez, les préservatifs ont été. Alors, oui, c'était pas les préservatifs actuels, mais il y a longtemps que ça existe.
Ah oui, ça existe depuis très longtemps, les préservatifs. Oui, mais c'était pas non plus une mode d'en prendre aussi. C'était pas dans les mœurs de prendre des préservatifs. Aussi, j'ai lu pas mal d'articles, le préservatif, c'était...
Oui, et puis vous savez, c'est pas si récent. Alors ça, je demanderai à Philippe, parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais depuis quand sait-on comment ça se fait des enfants? C'est pas si vieux que ça.
Non.
Hein.
Non, c'est parce que nous, quand on était gamins, quand on demandait comment on faisait les enfants, on disait que c'était la cigogne qui l'a portée.
Non, mais ça... On savait quand même comment que l'homme était responsable de la procréation. Mais il y a une époque où on ne savait pas. On pensait que les enfants, ils venaient comme ça. Par.
Voilà, exactement. Oui, exactement. C'était vraiment, vraiment... D'ailleurs, quand on voit le recul, on a fait des grands pas en avant qui étaient nécessaires. Parce que maintenant, un petit garçon de 5-6 ans, il sait quand sa maman va attendre un bébé qu'elle tient dans son ventre. Elle va pas aller chercher à la poste dans la colis. Tandis que nous, dans le temps, c'était comme ça. Et puis, il y a d'autres hypocrisies aussi. Aujourd'hui, qu'on dévoile, que nos parents ne voulaient pas nous dévoiler dans le temps, c'est tous la pédophilie. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin qu'on avait demandé à nos parents c'était quoi les balais roses et les balais bleus. On nous a sorti que c'était des petits-enfants qui dansaient. Hein. Il y avait un gros tabou là-dessus, on ne fallait pas en parler. On disait balais roses et balais bleus pour ne pas dire pédophilie. C'était assez grave, mais maintenant, on en parle aussi, puis on s'est sanctionné très très gravement, tandis que dans le temps, c'était quasiment basique.
Oui, je vous entends. Encore une fois, il faudrait savoir quel âge avaient ces ados dans les balais roses. Est-ce que c'était vraiment des enfants ou est-ce que c'était Bon, la majorité sexuelle aujourd'hui, elle est à 15 ans.
Des petits-enfants, des jeunes enfants de... Peut-être jeunes.
Je ne sais pas, donc je
reste... Je ne me rappelle pas très bien, j'étais quand même pas vieux. J'ai âgé, mais je n'étais pas très jeune non plus.
Mais qu'on se méprenne surtout pas sur mes propos, parce que je fais toujours attention. Évidemment que c'est important que la pédophilie aujourd'hui soit combattue et qu'il n'y ait plus d'exception à la règle.
Voilà, oui.
Donc vous êtes un libertaire pur et dur.
Ma femme n'est pas libertaire comme moi, sinon j'irais bien en club de temps en temps pour s'amuser.
Ah oui, mais libertaire, c'est pas libertin.
Oui,
hein,
libertaire, oui, je suis très libéral, oui, très libertaire, oui. Oui, oui. Et si ma femme était comme moi, j'irais en club de temps en temps pour s'éclater un petit peu. Ça ne ferait pas de mal. Voilà.
Merci Jean-Michel de votre témoignage en tout cas. Merci.
Au revoir.
Et puis nous retrouvons notre minute haute du lundi avec Paul Jérôme qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Brigitte.
Bonjour, vous êtes journaliste à Haute Vidéo, bien sûr, et vous allez nous parler de cette actrice Stoya qui visiblement a beaucoup de succès et on comprend pourquoi.
Elle a beaucoup de succès. Elle a connu l'année dernière la meilleure année de sa carrière, mais c'est une toute jeune carrière. Elle a 23 ans. Je fais un bref rappel. Elle a 23 ans. Elle vient de Caroline du Nord. Et elle a joué dans le film événement l'année dernière qui s'appelle Pirate 2, puisqu'elle est sous contrat avec la plus grande compagnie actuelle qui s'appelle Digital Playground. À la suite de sa couverture de Haute Vidéo, de nombreuses couvertures de magazines aux États-Unis. Les fans l'adorent, d'autant qu'elle tranche un petit peu avec les actrices américaines.
Alors pourquoi les fans l'adorent?
Parce que justement, elle n'est pas comme les autres américaines, toujours très exubérante, expansive, blonde, siliconée. Elle, c'est une petite brune, un corps tout à fait naturel, pas d'opération, une peau un peu diaphane, et puis surtout, elle est très timide. Mais elle compense sa timidité par beaucoup d'énergie, et sans doute...
Ah oui, c'est ce contraste qui fait qu'évidemment, elle a beaucoup de succès.
Oui, les fans doivent sentir que derrière cette timidité, ça, voilà, quand elle prend du plaisir lors de ses scènes, ça, c'est un plaisir qui n'est pas fin. Et donc, ça a beaucoup plu, à tel point qu'elle a été élue meilleure starlette l'année dernière aux Avian Awards. Mais il y a un revers de la médaille. En ce moment, il semble que la petite Stoya est en train de partir un peu en sucette.
C'est-à-dire, enfin, parce que sucette dans ces... actrice-là, il faut se méfier de quoi
J'ai fait exprès. Non, mais elle, il semble qu'elle a du mal un petit peu à gérer sa notoriété soudaine. Alors, quand on est une fille comme ça, qu'on vient de Caroline du Nord, et puis tout à coup, on a un gros contrat, beaucoup de fans, et puis aussi beaucoup d'argent, ben, on sort dans les clubs. Et dans une boîte à Los Angeles, elle a fait la connaissance de Marilyn Manson, qui est le rocker provocateur qu'on connaît bien. Et ben, c'est une rencontre qui lui a tout à coup apporté pas mal de désagréments. Elle a suivi Marilyn Manson en Europe pour sa tournée, ce qui prouve aussi que les rockstars et les actrices porno font souvent bon ménage.
C'est vrai.
Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans l'histoire. Et voilà, sa compagnie n'était pas au courant, donc elle est partie en Europe. Alors là, le Digital Playground n'était pas content. Et puis, 15 jours, 3 semaines après, Manson a dit, lors d'une interview au Times, qu'il sortait avec Stoya plus ou moins. Et puis là, il aurait peut-être mieux fait de se taire, qu'il a, à 6 heures du matin, lors d'une nuit un petit peu arrosée, il a dessiné sur son pubis un symbole que tout le monde interprète comme une croix gammée. Donc tous les journaux s'en sont emparés. La pauvre Stoya, en tout cas, on ne sait pas si elle était tout à fait consentante, complètement bourrée, ou si vraiment ça représente des croyances qui
sont
tous les deux.
C'est vrai que c'est un symbole qui, aujourd'hui, est...
Laisse quand même... Faut pas avec ça, voilà, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Alors bon, Manson se défend en disant que pour lui, c'est pas une croix gammée, que c'est un symbole un peu mystique, etc. Il a tout un tas de provocations comme ça, il est toujours un peu sur le fil du rasoir. Toujours est-il que la pauvre Stoya, elle est sur le point de se faire virer de sa compagnie. Alors évidemment, aux États-Unis, là, tout le monde se déchaîne dans les journaux sur elle, et puis elle a beau essayer de se défendre sur son site MySpace, d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, après la gloire, elle est en train de connaître une chute un petit peu brutale. On ne sait pas si on va la revoir, on ne sait pas si elle va abandonner.
On va suivre ça de près dans votre vidéo. Mais ce qu'il faut quand même toujours rappeler, c'est qu'elle a 23 ans, que c'est un âge où on est encore assez insouciant, et qu'au fond, peut-être un peu plus d'indulgence serait de bon ton. Mais ça, c'est un autre problème. Merci Paul Jérôme, merci beaucoup.
Je vous en prie.
On continue avec Damien qui est avec nous. Damien, bonjour.
Bonjour,
vous avez 28 ans et vous êtes un peu dans une impasse. Hein,
oui.
Votre ami donc est parti, c'est ça?
Tout à fait.
Vous étiez ensemble depuis combien de temps?
5 ans. Bientôt.
5 ans.
Mmh. Voilà. Donc pour expliquer assez rapidement, on a vécu une relation avec des hauts et des bas, notamment à cause de mon caractère. Où j'avais tendance à être un peu sec, et bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour le bien de notre couple, ce qui a été fait. Et bon, dernièrement, ma compagne s'est retrouvée au chômage, plus pas mal de remises en question. Elle est plus jeune que moi. Mm-hmm. Et elle est partie du jour en main, enfin même pas du jour en main, tout se passait bien. On avait une vie de couple tout à fait correcte. Elle est partie du jour au lendemain en claquant la porte en disant que c'était définitif. On s'est vu à peine un mois plus tard, où je lui ai ramené le reste de ses affaires puisqu'elle avait vidé l'appartement. Et bon, ça a été très très tendu, et elle m'a rappelé ensuite en pleurs, en me disant qu'elle était paumée, qu'elle avait senti la passion et le sentiment amoureux diminuer.
Ça, c'est normal, au bout de 5 ans, il n'y a rien d'étonnant.
Et que ça lui fait peur, et qu'elle s'est sentie, le quotidien nous a un petit peu bouffé, et qu'elle se sentait tomber dans une relation d'un couple d'une cinquantaine d'années, pour exagérer les choses, mais voilà quoi. Donc,
vous n'avez pas d'enfant, j'imagine?
Non. Donc c'est très difficile de savoir comment réagir. Maintenant, bon, on a des échanges téléphoniques et par texto, ce qui n'est pas forcément le mieux, où elle insiste bien sur le fait qu'elle ne promet rien, mais qu'elle a besoin de faire le point. Donc je passe d'une situation où j'étais le mouton noir, où tout était de ma faute, à une situation où il reconsidère les choses, mais qu'est-ce que je peux faire pour...
Déjà, arrêter ce dialogue par SMS qui est jamais très bon. Vous savez, une femme qui décide de faire le point, c'est quelque chose d'assez contradictoire. Bon, vous l'avez remarqué, Damien, la femme, elle a besoin de passion, elle a besoin d'amour, elle a besoin de vibrer. Et si vous rentrez dans une discussion assez raisonnée, vous risquez de lui faire prendre conscience qu'au fond, il n'y a vraiment plus de passion. Et je crois que c'est vraiment pas une bonne chose que de continuer à échanger par SMS. Ça, c'est un premier point. Ensuite, moi, je crois qu'il faut la laisser un petit peu mariner, comme on dit, pour qu'elle puisse prendre conscience que vous lui manquez. Soit de deux choses l'une, hein. Soit il n'y a vraiment plus rien entre vous, et de toute façon, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à la récupérer, on est bien d'accord.
Je me battrai pas contre ça.
Non, mais attendez, je continue. Parce que soit en effet, il y a un lien qui s'est construit entre vous durant 5 ans, ce que l'on peut espérer, et à ce moment-là, le fait que vous lui manquiez, le fait que vous preniez de la distance, va lui faire se rendre compte qu'elle tient à vous et qu'elle a envie de repartir avec vous. Mais si vous entretenez ce lien par des SMS ou par des coups de fil ou par une sorte comme ça de continuité dans la relation, elle pourra pas vraiment se rendre compte si vous lui manquez. Et quelque part, le fait de... Alors, je vous dis pas de tout à fait l'ignorer et de ne plus du tout être en relation avec elle, mais au moins de la laisser un petit peu avoir le temps de se rendre compte que vous lui manquez.
Ouais, alors on arrive à une autre impasse.
Oui.
C'est qu'aujourd'hui, elle a le sentiment de manque, mais elle n'arrive pas à analyser si c'est moi qui lui manque ou si c'est la relation de couple en elle-même. C'est-à-dire, bon,
Damien, c'est son problème, c'est pas le vôtre.
Ok.
Pourquoi vous rentrez dans cette discussion-là? Pourquoi vous lui donnez la possibilité de discuter de ça avec vous? C'est franchement désagréable.
Ben oui.
Bon, donc ne lui donnez pas le dos pour vous faire battre.
Mmh.
Voyez, parce que encore une fois, ce genre de discussion dans un couple n'a pas lieu d'être. Si c'est des questions qu'elle se pose, eh ben elle va voir un thérapeute.
D'accord.
Moi je crois qu'il faut mettre un petit peu de distance pour l'instant. En revanche, ce que vous pouvez faire quand vous aurez.
Depuis un mois.
Pardon.
Il est fait depuis un mois. Ça fera bientôt un mois.
Oui, mais vous continuez visiblement régulièrement à vous envoyer des SMS et à communiquer.
Mmh. Hein?
Donc, laissez-la un petit peu tranquille pendant quelques temps, peut-être une semaine, 10 jours. Et puis, pourquoi pas, proposez-lui quelque chose de très fun.
Oui, mais c'est ce que je voulais.
Pardon?
C'est ce que je pensais, proposer une soirée ou partir une journée pour retrouver certaines choses, quoi.
Mais pour l'instant, je crois qu'il faut vraiment la laisser un petit peu se rendre compte qu'elle a peut-être fait une bêtise en vous quittant. Peut-être qu'elle a beaucoup plus besoin de vous qu'elle ne l'imaginait.
D'accord.
Voilà. Et puis j'espère que le lien, encore une fois, faut le rappeler encore et encore. La passion, ça ne dure qu'un temps, et ensuite c'est un lien affectif qui se construit.
Que je considère de plus fort, moi, dans notre relation, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident de faire la part des choses aussi.
Mais en même temps, et c'est là où peut-être vous avez un petit peu oublié ça, c'est que peut-être vous avez pas assez été attentionné, vous avez peut-être oublié de la surprendre, vous avez peut-être oublié pendant ces 5 dernières années de vous occuper un petit peu d'elle. Et puis si ça repart, surtout Damien, donnez-vous des objectifs de couple.
Okay.
Ne restez plus dans le train-train qui peut-être vous a fait faillir la perdre.
D'accord.
Bon. Merci Damien.
Merci beaucoup. Au revoir.
On va se retrouver dans un instant avec Philippe Brenneau. Nous en avons des questions à lui poser sur notre sexualité. Donc vous aussi, 32-16, bien sûr, si vous avez envie de poser des questions, on se retrouve dans un instant.
RMC Brigitte Lahaye, Actu.
Bien, nous sommes avec Loïc Mété et nous allons parler donc de cet événement qui a pour but de récolter des fonds contre le cancer du sein. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Bonjour. C'est une course donc qui aura lieu samedi à Saint-Jean-de-Luz et cette course donc est payante, mais enfin vraiment un prix symbolique, hein, 2 € pour les enfants et 4 pour les parents. Et,
oui.
Et voilà. Et donc c'est une façon de donner pour la lutte contre le cancer du sein.
Tout à fait. Juste une précision. Donc c'est effectivement 2 € et 4 € pour la petite course Et après, on organise aussi un 5 km marche ou course à pied et un 10 km. Donc, ça peut monter jusqu'à 10 euros. Mais comme vous le disiez, 10 euros pour la lutte contre le cancer du sein. Mmh. Donc, c'est reversé.
Donc, plus on court, plus on paye. Plus on paye.
Oui, plus il y a d'efforts et plus vous payez. Ouais.
De toute façon, c'est très bon de faire du sport.
Exactement. Donc, en fait, c'est organisé dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean, les fêtes de Saint-Jean-de-Luz.
Ouais.
Comme tous les ans. Et sauf que cette année, on a décidé de s'associer avec Odyssea, donc qui organise plus d'une dizaine de courses dans toute l'année sur toute la France.
Mmh.
Et c'est la première fois en fait que Odyssea organise une épreuve dans le sud-ouest, dans le grand sud-ouest, puisque les plus proches c'est à Tours et à Marseille. Donc il n'y a pas vraiment d'autres courses de ce type-là dans le grand sud-ouest. Donc c'est une grande première.
Bien voilà, donc samedi, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. C'est à partir de 8h30 hein, que place Louis XIV, en plus.
Tout à fait, donc inscription sur place ou sur odyssea.info.
Très bien. Eh bien, voilà. J'espère qu'ils seront nombreux à courir contre le cancer du sein.
Oui.
Merci Loïc Mété.
Merci.
Au revoir.
RMC, Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous.
Philippe Bruneau, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Vous êtes sexologue et anthropologue, je le précise aujourd'hui, parce que la sortie de cet ouvrage, Le sexe, l'homme et l'évolution, aux éditions Odile Jacob, traduit bien votre passion pour les singes, notamment. Et moi, ce livre m'a passionné parce que je crois qu'on ne peut bien se comprendre que si on sait d'où on vient. Et c'est passionnant de voir finalement comment la sexualité évolue au fil des siècles, des millénaires même, devrais dire.
Et puis je crois que c'est exactement ce que vous dites, c'est que on essaie de comprendre. Et moi, ma formation en anthropologie m'a tout le temps interrogé. Moi, ce sont des grands singes, des primates que je reçois tous les jours dans mon cabinet, parce que j'ai du mal à voir dans les humains quelque chose d'autre que nos racines primates. Et à ce moment-là, on va comprendre ce qui est humain de la sexualité humaine, parce qu'il y a des parties qui sont totalement animales, qui sont totalement communes, et puis il y a des choses qui sont très personnelles. Et dernier mot d'introduction, j'allais dire, de prémisse à ce discours. Il y a eu une période où je travaillais toujours avec des grands singes, chimpanzés, gorilles, orang-outans. J'avais trois jeunes orangs.
Je sais que vous aviez une fiancée chimpanzée, je crois.
Oui, une Charlotte.
On en a déjà parlé quelques fois, tous les deux.
Formidable, formidable, Charlotte.
J'en suis très jalouse, d'ailleurs.
Elle était juste adolescente, elle avait 4 ans. Mais il y a eu une période, c'est inhabituel pour les psychiatres, puisque de formation je suis biologiste et anthropologue, où je travaillais avec eux le matin et où j'étais en séance avec des patients l'après-midi. Ça m'a appris considérablement sur les humains pour arriver à comprendre.
Les plus fous sont peut-être pas ceux qu'on croit.
Oui, et puis on perçoit des choses et on dit ça c'est réellement humain, c'est ça on l'a en commun. C'est-à-dire qu'il y a des choses, et on va en parler, que l'on partage. C'est peut-être le seul terme, on partage avec, pas nos cousins, ce sont des parents, on vient pas d'eux, mais on partage beaucoup de choses avec eux.
Alors ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, on voit à quel point la compréhension de la sexualité est terriblement subjective. Parce qu'on voit bien que les philosophes, les sociologues, voire les médecins, voire enfin, monsieur, madame, tout le monde, ont toujours une façon d'interpréter qui est pas tellement objective finalement.
Bah, c'est-à-dire qu'on a une image, chacun et moi-même, je dirais, avant de travailler là-dessus, moi j'avais une image. Par exemple, l'idée du singe satyre. Alors, les singes, ils sont vachement membrés. Et puis d'ailleurs, dans toutes les populations, on raconte des histoires où un singe, un chimpanzé, un grand gorille, l'histoire de King Kong, c'est-à-dire...
Et la chanson de Brassens.
La chanson de Brassens, mais King Kong vient enlever une femme, et le fantasme, c'est qu'à ce moment-là, il lui fait l'amour. Et dans la réalité, il y a des phénomènes d'attraction entre espèces. Moi, j'ai le souvenir d'avoir travaillé avec des chimpanzés, avec des jeunes macaques aussi, et on voit bien des femelles qui peuvent être intéressées, mais comme on le voit, avec des animaux qui ne sont proches, et des attractions comme ceci. Mais les gorilles n'ont jamais pris une femelle humaine et surtout pas pour faire l'amour avec elle. C'est-à-dire qu'on...
De toute façon, ils ont un tout petit sexe.
On
ça
en
m'intéresse
parlera,
pas.
Voilà. On en parlera, c'est un tout petit sexe.
Cela dit, vous le saviez peut-être pas, Philippe, mais une de mes premières amours animales, c'était avec un petit singe.
Ah, oh, c'est formidable.
Et oui, ça. J'ai eu un petit singe pendant 2 ans, un sarcopithèque. Et c'est vrai, je reconnais qu'il y avait, dans son comportement des choses qui sont très très proches de l'humain. Mais les auditeurs ont certainement plein de questions à vous poser. Donc 32-16, n'hésitez pas, vous avez envie de comprendre mieux notre sexualité. Toutes vos questions sont les bienvenues au 32-16. Pour l'instant, on va passer sur un sujet un petit peu plus bateau, si je puis dire, le libertinage avec Sylviane qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Brigitte.
Bonjour Sylviane.
Bonjour Sylviane.
Vous avez 49 ans, vous êtes libertin avec votre compagnon.
C'est cela, oui.
Et pourtant, votre mari, visiblement, ne supporte pas trop. Donc, il n'est pas vraiment libertin.
Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas parce que... Est-ce de la jalousie mal placée? Je ne sais pas. Parce que, comme je disais à votre...
La personne que vous avez eue, mais ça, voilà. Ça, on ne sait pas, donc il va falloir nous le redire, Sylviane.
Oui, donc nous étions à une soirée organisée par le camping naturiste et libertin, et donc je dansais avec mon mari,
oui.
Et venu se joindre à nous un couple,
oui.
Et nous avons dansé tous les quatre, et on était enlacés, on s'est caressés, embrassés, jusque-là très bien, ça se passait très bien. Et après, moi j'ai dansé parce que j'aime ça. Mon mari est resté de son côté, il est allé boire un verre, et puis il est revenu. Et j'étais au milieu de la piste avec 2 ou 3 bonhommes autour de moi qui me caressaient, m'embrassaient. Et ça alors, il n'a pas supporté. Là,
mais,
non.
Mais vous aviez déjà eu ces expériences, ce genre d'expérience, ou c'est la première fois?
Non, 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 non. Mais il y a 4 ans, je l'ai trompé.
Pourquoi?
Alors,
non mais est-ce que, d'accord, vous avez eu une aventure il y a 4 ans, mais est-ce que cette expérience échangiste ou libertine, appelez-la comme vous voulez, c'était la première fois que vous aviez ce genre d'expérience ou pas?
Comme ça, mais je pense que c'est le fait d'être en public. Ça, il n'a pas supporté.
Sylviane, excusez-moi, je suis très, oui, précise dans ma question et on a besoin d'une réponse très précise. Est-ce que vous aviez déjà flirté avec d'autres hommes dans des endroits libertins ou pas?
Non, jamais.
Bon, bah donc je crois que la réponse, elle est facile, hein, Philippe Bruneau a donné.
Ben oui, c'est-à-dire que on le voit dans les expériences libertines, moi je crois que ça pose jamais de problème lorsque les deux le désirent. Mais attention, quand on donne un accord, quelquefois, homme ou femme, on ne sait pas forcément ce qu'on va rencontrer. Et là, visiblement, dans ce que vous racontez, ben, tout d'un coup, il a été pris de quelque chose de l'ordre d'une jalousie, il a mal supporté. Et certainement parce qu'auparavant, dans l'échangisme qui se passe en privé avec des accords, c'est-à-dire 2 couples se font et s'échangent, eh bien c'est vrai que c'est peut-être pas du tout la même chose. Donc je crois que oui, il l'a pas bien supporté. Quand vous dites je comprends pas, mais oui, parce que nous ne vivons pas la même chose. C'est même pas homme-femme là, c'est chaque individu en fonction de son histoire, en fonction des liens que vous avez ensemble.
Entre ce qu'il croyait pouvoir vivre et la réalité, eh bien il s'est trompé. Il pensait être apte à vivre des expériences libertines, et visiblement, non, il n'en est pas capable.
Mais je pense, c'est ce que je pense aussi.
Ben oui, mais il n'y a rien à expliquer, vous savez, c'est chacun a ses capacités à vivre ce genre de choses ou pas.
Et puis je crois quand même qu'il c'est quand même une marque de liberté de pouvoir vous dire oui, on va essayer, parce qu'il apparemment il l'a accepté, et certainement qu'il voulait, puisque c'est peut-être vous qui avez initié l'idée. Et bien dans un deuxième temps, c'est son émotion, c'est-à-dire des choses qui sont au-delà, ça vient de notre histoire, ça vient de tout un tas de choses qui lui montrent c'est difficile à vivre. Mais enfin, quand même, il avait accepté l'idée. Mais
alors, ce qu'il faut surtout savoir, Sylviane, parce que ça c'est quand même très important, est-ce qu'il n'a pas accepté l'idée en se disant comme ça au moins, elle ne me trompera plus, vous voyez, et ça c'est toujours embêtant, parce que on ne devient pas libertin pour éviter de se tromper, c'est pas du tout sur le même registre.
Moi je le sens comme une sorte de possession.
Oh, je sais pas, Sylviane, parce que vous savez, parfois, les hommes qui sont très libertins sont justement dans cette notion de posséder le corps de leur femme qu'ils peuvent distribuer à droite et à gauche. Donc, c'est pas forcément un problème de possession. Ça peut être tout simplement, vous savez, chacun a son fonctionnement et là, c'est presque culturel, hein, cette relation à l'autre.
Oui, on peut même se demander, j'ai oublié votre prénom, pardon.
Sylviane.
Sylviane, c'est ce que j'avais en tête, mais j'avais un petit doute, je voulais pas me tromper. Mais Sylviane, on peut même se demander pour quelle raison lui avez-vous proposé cela, parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous vivez ensemble.
Le 29 ans.
Oui, et pourquoi vous ne l'avez pas proposé plus tôt? Et est-ce que ce n'est pas venu comme quelque chose, peut-être pour résoudre, vous, un problème pas simple, puisque vous avez eu une relation donc extérieure il y a quelques années, et peut-être que ça vous paraissait permettre d'allier le fait d'être ensemble et puis d'avoir quand même des contacts avec quelqu'un d'autre. Peut-être que votre proposition était une solution pour vous et ne l'est peut-être pas pour lui.
Donc je crois que c'est ça qu'il faut essayer d'analyser, Sylviane. Hein. Mais en tout cas, il faut respecter son refus et ça prouve qu'au fond il est capable de s'affirmer et ça c'est plutôt bon signe. Il vaut mieux qu'il vous dise tout de suite non, je ne veux pas, que de vous laisser faire et puis au bout de quelques mois ça peut vraiment détruire le couple.
Oui, parce qu'il a menacé de partir hein, si je recommençais. Hein.
Oui, ça a dû vraiment le faire souffrir. Bah, écoutez, ça prouve qu'il tient à vous. Après tout, c'est peut-être ça la bonne nouvelle. Il vous aime tellement qu'il a peut-être pas envie de, il a pas envie de vous partager. Il vous veut tout à lui, c'est vrai.
Donc à moi de faire attention.
Voilà.
Mais peut-être et de trouver des façons qui vous conviennent à tous les deux de renouveler l'intérêt dans le couple. Hein, ça vous le trouverez ensemble, je pense.
Merci Sylviane, en tout cas de votre appel.
Merci.
On se retrouve dans un instant pour le J'ai testé pour vous, le Love Conseil. N'hésitez pas à 3216 touche 6, allez vous inscrire pour jouer avec nous à ce grand jeu RMC Plage Marmara. Dans un instant, on se retrouve.
Brigitte Lahaye, La Haye, l'amour et vous.
Nous allons du côté de rmc.fr avec Christine qui voudrait réagir. Nous avons eu un auditeur qui parlait du plaisir et elle voudrait vraiment le rassurer. Et je crois que c'est intéressant aussi de voir à quel point notre sexualité évolue aussi au fil des années. Parce que Christine dit, bah voilà, j'ai 49 ans et mon plaisir ne fait qu'augmenter. J'ai beaucoup plus de plaisir à 49 ans qu'à 20 ans. Et voilà, donc c'est un petit private joke pour vous,
oui,
Philippe Bruno.
Je crois que c'est très bien qu'il y ait des témoignages comme cela parce que on entend trop cette idée de beaucoup de gens qui ne connaissent pas la sexualité en disant, bon, ben les choses ralentissent. Moi, je crois qu'il y a une difficulté, c'est justement que les femmes qui se connaissent vont être progressivement plus épanouis, souvent se libérant des hormones et ainsi de suite, tandis que les hommes ont quelquefois des petites défaillances.
Voilà, et puis vous êtes nombreux toujours à me demander des adresses de sexo, de thérapeutes dans différentes régions de la France. Je rappelle qu'il y a des sites sur lesquels vous avez toutes les adresses, le site de laus.fr, de la Société Française de Sexologie Clinique, etc. Et alors, puisque Philippe Bruno, vous êtes sexologue, est-ce que c'est Marie-Jo qui me demande ça. Est-ce qu'il y a des sexologues dans la région de Clermont-Ferrand?
Oui, tout à
oui,
fait.
Parce qu'elle a l'air de dire que c'est une région complètement paumée.
Non, pas du tout. Il y a même très récemment, vous voyez, je vais lui donner un scoop, il y a quelques mois, a été décidé un enseignement de sexologie à la faculté de Clermont-Ferrand, alors qu'il devait aller à Lyon. Et sur le site de l'AIUS, ça s'écrit AIHUS, c'est un peu compliqué, c'est les universitaires et sexologues qui s'occupent de sexualité, vous faites AIUS, AIHUS, et vous avez des gens, et il y en a à Clermont-Ferrand.
Voilà, et puis de toute façon, sur un moteur de recherche, vous pouvez trouver tous ces sites, et là, vous avez vraiment toutes les adresses, donc n'hésitez pas, on arrive toujours à trouver, et sinon, dans tous les hôpitaux, il y a des trucs de sexologie.
RMC, Brigitte Lahaye. La haie, l'amour et vous.
Et Eh bien, Philippe Bruneau, on va aller voir du côté de nos chatteurs. Alors, on disait tout à l'heure en début d'émission que Internet, ça n'existait pas à l'époque des cavernes. Peut-être le tam-tam, comme le disait si bien Cyril. Oui. Et en revanche, ils sont toujours débordants de questions. J'imagine que c'est le cas également aujourd'hui.
Oui, mais là, j'en ai une un peu étrange. Parce que moi, on me dit sur le chat que des godes en pierre ont été trouvés pendant des recherches archéologiques. Alors du coup, on se demandait si la sexualité avait vraiment évolué.
Des godes, à quand remonte le premier god miché qu'on ait retrouvé, Philippe Bruneau? Voilà la question.
Oui, alors ça c'est quelque chose de compliqué. Il y a eu un livre qui s'appelle God Story, que vous avez peut-être reçu ici, que pas mal d'auditeurs ont pu lire, dans lequel il y a au contraire une historienne qui est très prudente, qui dit même que dans l'Antiquité, on n'est pas sûr en tout cas de l'utilisation. On sait qu'il y en avait qui se faisaient à Lesbos. Dans la préhistoire, il y a des représentations phalliques. Bien sûr qu'il pourrait aujourd'hui servir de god. On n'a aucune idée.
Cela dit, Philippe, excusez-moi, mais alors un god en pierre ou en marbre, moi je ne sais pas si j'ai envie de l'utiliser.
Mais Brigitte, il n'était pas en pierre ni en marbre. C'était magnifique, c'était en bois de Rennes. Et alors là, je pense... c'est d'où le bois de Rennes.
Vous avez essayé?
En fait, ce sont des représentations phalliques qui étaient certainement au moins à la fécondité, peut-être à l'érotisme, parce qu'il y a des représentations sur les parois des grottes qui sont extraordinaires, des très belles silhouettes.
Alors justement,
féminines.
Puisqu'on parle vous parlez de fertilité, ça me rappelle la question que posait le premier auditeur, je me posais à moi-même en écoutant le premier auditeur, et j'ai pas la réponse. Vous l'avez peut-être. À quand remonte la certitude que l'homme avait son rôle à jouer dans la reproduction?
Oui, alors j'ai entendu effectivement en venant ici cette question. Certainement, très récemment. Alors, le fait de savoir réellement, c'est à partir du XVIIe siècle, 1670, on découvre le spermatozoïde. Là, on en a une idée. Et encore, regardez, au XVIIe siècle, il va y avoir la bataille des ovistes et des spermatistes. C'est-à-dire ceux qui pensent, non, le bébé se fait uniquement par l'ovule. Non, il se fait uniquement par le spermatozoïde. Et sous le microscope, j'ai bien vu dans ce spermatozoïde envoyer un petit mâle ou une petite femelle, envoyer des cheveux bouclés. Enfin, c'était des fantasmes. Donc, on ne le sait réellement, biologiquement, que depuis moins de 3 siècles.
Mais ce qui est très peu dans l'histoire de l'humanité.
Par contre, le fait qu'on sache que ça participe, alors c'est un petit peu le problème des sociétés matrilinéaires africaines. Vous savez, elles sont matrilinéaires parce que en Afrique traditionnelle, on fait partie du clan de la mer. Ce clan de la mer, par exemple, je suis Camara. Camara veut dire le crocodile en malinké. Je suis Camara, je fais partie du clan des Camara parce que ma mère était Camara. Que je sois homme ou femme. Mais pourquoi? Parce que c'est la seule certitude.
Oui,
et les hommes, disait-on...
Comme dans la tradition judaïque, en fait.
Exactement, mais les hommes, à ce moment-là... Et les pères, on dit au pluriel, les pères sont les hommes de l'âge de la mère. Et ça, c'est une réalité. La grande certitude, c'est la mère. On peut dire que dans l'Égypte ancienne, il y a un dessin, sous un hiéroglyphe, qui représente un fœtus relié à un pénis en érection par des petites gouttes de sperme. Il y a certainement l'idée que ça servait au moins à quelque chose, qu'il y ait du sperme dans la femelle.
D'accord, donc finalement, on le sait depuis très très longtemps.
C'est très rien dans l'histoire de l'humanité. Mais auparavant, la chose qui est compliquée, c'est lorsqu'il y a des copulations multiples. Et chez les mammifères, en général, il n'y a pas de couple et il n'y a pas de certitude, parce que comment faire le lien entre une copulation parmi d'autres et une grossesse 9 mois plus tard? Et là, à ce moment-là, on est un peu perdu. Il y a des grossesses qui se font et il y a des accouplements qui se font. Mais pendant très longtemps, je pense que le lien n'a pas été fait.
Céline est avec nous pour nous parler de ce jeu qu'elle a testé. Alors ça s'appelle Nirvana, donc ça annonce bien la couleur. Libérez vos fantasmes et atteignez le Nirvana. Céline, bonjour.
Bonjour, Julieta.
Bonjour Céline.
Donc j'ai essayé le jeu. Donc on a commencé en couple déjà.
Vous avez joué avec votre compagnon, oui.
Voilà, et on s'est vite aperçu qu'on commençait à s'ennuyer, donc on s'est dit on va le faire dans le libertinage.
Plusieurs,
donc,
oui.
On a invité donc un autre couple. On a testé. On a commencé par bien rigoler tant qu'on était dans le soft, parce qu'il y a plusieurs lots de cartes.
Il y a plusieurs cartes. Oui, il y a des cartes érotiques, des cartes coquines.
Donc, on commence par le soft, l'érotique, le hot et le coquin. Mm-hmm. Et bon, au bout d'un moment du soft, on a commencé un petit peu à s'ennuyer. Donc, on a passé les caves. En fait, on a triché, mais tous. On est passé dans l'érotique pour voir un petit peu ce que ça donnait. Au bout de 30 secondes, on s'est dit, bon, on va passer direct au hot. Hein. Et puis après... Et puis après, vu les cartes, il y a eu quand même beaucoup de cartes ou beaucoup de cases qui disaient buvez cul sec ou buvez un coup.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs, hein, il y a des cartes qui sont finalement assez anodines. Et puis de temps en temps, il y a une carte qui annonce vraiment la couleur, quoi.
Tout à fait, oui. Et bon, là, comme nous, on était donc dans le libertinage, on savait bien l'issue de la soirée. Hein. Donc, on a été plus vers le coquin un peu plus rapidement, parce que sinon, on se serait un petit peu plus ennuyé. Et oui, effectivement, il y a...
Marquée,
y a
je ne voudrais pas dire, Céline, mais je ne suis pas sûre que vous ayez besoin d'un jeu pour ne pas vous ennuyer, hein, me semble-t-il, en tout cas.
Tout à fait. Mais là, bon, en fait, comme j'avais le jeu et que je voulais le tester, ça m'a permis aussi d'avoir... trois autres avis en dehors du mien en plus. Donc quand le petit hic, je dirais que c'est que quand on tombe trois ou quatre fois sur enlever tous vos vêtements,
ça devient difficile de les enlever.
Ah oui, c'est difficile, il faut
après,
se entre-temps.
Après, on ne sait plus quoi enlever. Hein.
Oui. Donc finalement, le petit hic, c'est que ça manque un peu de d'imagination au niveau des cartes, quoi. Je crois comprendre.
Oui.
Hein.
Oui, buvez un verre.
C'est un peu
bon,
toujours la même chose.
Quand même
bon, on est sous et complètement à poil. Et
apparemment, vous avez apparemment, vous avez beaucoup d'imagination puisque vous voyez, vous dépassez les étapes du jeu.
Ah bah oui, finalement, même nous quatre, on s'est dit bon, on va passer directement au coquin parce que bon là, à part se mettre tout nu, et une fois qu'on est tout nu, il n'y a plus rien à enlever. Hein.
Ben oui.
Une fois que tous nos verres sont vides, bon ben on fait quoi?
Donc, ce que je trouve un peu dommage dans ce que vous dites, c'est que finalement c'est pas un jeu pour des gens qui sont pas assez libérés, et pour des gens libérés c'est presque pas assez, quoi.
Si, pour des gens qui commencent, on va dire, dans le libertinage, des petits débutants.
Soyez pas méprisante, Céline.
Pardon ?
Ne soyez pas méprisante.
Non,
des
je
petits
dis
débutants.
Que si j'avais eu un jeu comme ça quand j'ai débuté,
ça vous
dans
aurait plu.
Libertinage, effectivement, ça peut amener à plus de... On se lâche un petit peu plus, quoi, parce que là, c'est le jeu. Une fois qu'on est bien dedans, que toutes les règles sont bien établies, là, bon, on pose le jeu sur la table... Et ben finalement, au lieu de passer au soft, on va directement au coquin, parce que bah ouais, on finit par s'ennuyer une fois qu'on est déjà tous nus et que on a tous fini nos verres.
Oui.
Bon bah il faut effectivement passer à autre chose.
Moi je vous poserai une question parce que apparemment il faut la boîte n'est pas complète, il faut quand même qu'il y ait de l'alcool. C'est quand même quelque chose qui a l'air nécessaire.
Oui, limite nous ça nous a tous choqués d'ailleurs parce qu'en plus nous étions tous au Coca-Cola.
Oui, alors simplement, une question que je vous poserai.
Donc on a bu beaucoup de Coca-Cola.
Est-ce qu'un jeu comme ça, et je ne le connais pas directement, est peut-être conseillé pour des gens qui sont un petit peu bloqués ou coincés dans leur sexualité, pas pour le faire à plusieurs et dans le libertinage, mais simplement dans un couple. Est-ce qu'un jeu comme ça, vous croyez que ça peut aider des gens un petit peu bloqués à se débloquer ?
Oui.
Mais surtout si
c'est
boivent.
Peut-être la fonction. Hein. Oui,
voilà, bon. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on commence, oui, ça peut aider parce qu'il y a vraiment des questions.
Ben peut-être, oui.
Dans le SOST, il y a certaines questions qui demandent...
Mais par exemple, là j'ai le jeu sous les yeux, mais j'ai pas le temps que j'ouvre le jeu, les cartes. Ouais. Les questions soft, vous avez une idée comme ça de ce que c'est? Je vais essayer rapidement de l'ouvrir, mais Céline.
Le soft.
Oui, qu'est-ce qu'une question?
Le soft, c'est plus... pourriez-vous avoir des relations?
Ah bah regardez, attendez, Céline, j'ai une carte, mettez un vêtement. Donc voyez bien qu'on peut se rhabiller.
Ah, on peut se rhabiller.
Oui, mais une fois qu'on a passé les cases sur le tableau, une fois qu'on a passé les cases du soft, on passe automatiquement à l'érotique.
Bah, moi,
donc on ne peut plus revenir sur le soft.
Bah, écoutez, j'ai les cartes érotiques et là, moi je viens de tirer une carte. Tous les joueurs échangent leurs vêtements de gauche à droite.
Bah oui,
pourquoi de gauche à droite?
Oui, mais le problème, problème, c'est que si on les a déjà tous enlevés, hein, on est déjà tous tout nus. Comment on fait?
Oui.
En tout cas, dans les questions soft, ça pourrait convenir à des gens qui se connaissent pas trop. Raconter voilà. votre première expérience sexuelle ratée.
Oui,
y a-t-il une pratique sexuelle que vous détestez? Quel joueur vous attire le plus? Bon, enfin, en tout cas, c'est un jeu qui peut intéresser certaines personnes, mais en effet, si on est très libertin, on n'a pas besoin de ce genre de guide, hein, en quelque sorte. On a bien compris.
On va bien rigoler dès le départ, en fait. Mmh. Quand on est déjà libertin, on rigole bien dès le départ. On commence quelques questions soft. Bon, c'est bon, on passe direct à l'érotique. Une fois qu'on est passé à l'érotique, on a fait quelques questions, on finit direct
d'accord.
par le hot.
Alors, quelle note vous donnez à ce jeu, Céline?
Moi, personnellement, 5, pas plus. Parce
bien sûr, mais c'est votre droit le plus strict. 5 sur 10 pour ce jeu qui s'appelle Nirvana. Nirvana, qu'est-ce que je raconte?
Nirvana,
merci. Et que l'on trouve sur le site neoplaisir.com. Merci Céline. Dans un instant, après les infos, on continuera à se questionner sur notre sexualité et sur l'évolution. N'hésitez pas à vous inscrire au 3216 touche 6 pour jouer avec nous, avec RMC, avec le Club Marmara et gagner ce voyage. Et tout de suite, eh bien, l'histoire coquine du jour, c'est Lionel Buisson qui nous la raconte, que vous pouvez retrouver dans cette pièce « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières » qui est très drôle et qu'on trouve, qui se joue au Théâtre du Gymnase à Paris. A tout de suite.
Bonjour Brigitte, aujourd'hui je vais vous parler du syndrome de l'oignon. Oui, vers 50 ans, chez les femmes, il y a la ménopause, certes, mais chez l'homme, il y a le syndrome de l'oignon. Eh ben oui, ils prennent de la bedaine. Ils s'arrondissent, ils ont la queue qui sèche, et quand ils se déshabillent, leur femme se met à pleurer. Et surtout, n'oubliez pas, mieux vaut rater un baiser que baiser un raté.